chers auditeurs de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une dernière séance de catéchisme avec les élèves de l'école Fénelon à Toulon. Et aujourd'hui, avec la classe de CM1 Rouge, nous allons apprendre à connaître David et Salomon.
Le dernier cours, j'étais pas là. Vous avez dû remarquer, il n'y avait ni moi ni Claire, et donc on vous a fait passer un film. Alors je voudrais savoir si vous vous rappelez un petit peu de quoi ça a parlé. Héloïse. De David. Ok. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à David ? Félix ?
Il est jeune et personne ne veut qu'il aille à la guerre. Et à la fin, il va quand même à la guerre combattre Goliath.
Ouais, est-ce qu'il y en a qui peuvent dire autre chose sur le film ? Oui ?
Le futur roi d'Israël.
Le futur roi d'Israël. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur le film ?
Le père ne voulait pas laisser partir
son plus jeune fils. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ? Oui ?
Il s'était préparé à la sécheresse.
Ah, ça c'était Joseph. Là, le roi David, c'est un peu plus tard. Mais c'est les descendants. T'as raison, on est dans la même histoire. Mais on est un peu plus tard, oui.
Et que David, avec un seul bâton en bois, il a combattu un tigre.
Ouais. Est-ce que c'était un bâton en bois qu'il avait ? Théa ? Et c'était un poignard qu'il avait ? Ah bon, mais c'est pas l'histoire que je connaissais. Lou, c'était un bâton ? Mathéo, qu'est-ce qu'il avait, David, pour combattre Goliath, le géant ?
Des pierres.
Et avec quoi il a lancé sa pierre, Florian ? Avec un lance-pierre. Et qu'est-ce qui a gagné ?
David.
David. Est-ce qu'on pouvait penser que ça allait être David qui allait gagner ? Mado. On pensait que c'était Goliath. Et oui, plus grand, plus fort, plus d'armes, oui.
Mais quand on est grand, on est plus d'armes, c'est pas ça qui fait qu'on est le plus fort.
Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que c'est David qui a gagné et pas Goliath ? Anna ?
Parce que David, il y avait Dieu qui l'aidait.
Exactement. Ouais, c'est ça ? Félix, tu veux dire autre chose ?
Il a dit... Dieu guide ma main.
Ah, il a demandé l'aide de Dieu. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il avait comme expérience guerrière, David ? Théa ? Il n'en avait pas ? Qu'est-ce qu'il avait comme expérience quand même un petit peu ? Ouais, Mathéo ?
Pour lancer les pierres.
Pour lancer les pierres contre qui ? Il avait utilisé sa fronde.
Contre les lions.
Céline, contre les lions et les ours. Il avait déjà utilisé, effectivement... Parce qu'il était astucieux, il était habitué à se débrouiller tout seul. Parce que c'était quoi son métier ?
Il gardait les moutons.
Il gardait des moutons. Et comment ça s'appelle, quelqu'un qui garde les moutons ? Charlotte ?
C'est un berger.
C'est un berger. Mais quand même, Dieu, il est rigolo. Pourquoi Dieu a choisi David ?
Parce que David, il pense pas... Enfin, David, il est beaucoup plus gentil que Goliath.
Il est plus gentil que Goliath. C'est vrai que pour les hommes... Est-ce que Dieu choisit comme les hommes ?
Non, c'est parce qu'il a confiance en eux.
Il a confiance en eux, oui.
Et qu'ils ont le cœur pur ?
Ah, Dieu avait vu que David avait le cœur pur. Effectivement, c'est sûrement ce cœur pur qui l'a aidé à avoir la victoire. Oui, Félix ?
Dieu ne regarde pas comme les âmes. Il ne regarde pas l'apparence physique, mais le cœur.
Il regarde le cœur. Comment ça se fait que Dieu peut voir dans nos cœurs ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui ?
Parce qu'il est dans notre cœur ?
Parce qu'il est dans notre cœur, oui. Alors si on le laisse rentrer, hein. Si on ne le laisse pas rentrer, il ne sera pas trop dans notre cœur. Oui ?
Parce que c'est le Dieu.
Et c'est le Dieu qui nous a...
Créé.
Voilà, c'est le Créateur. Donc forcément, il sait ce qu'on a dans le cœur, il nous voit. Il nous regarde, il nous aime, il passe du temps à nous regarder. Et voilà, j'ai oublié de commencer la séance de caté parce qu'on fait d'habitude, c'est se mettre déjà sous le regard du Seigneur. Parce que nous aussi, on a besoin d'être dans la lumière de Dieu, de lui demander son aide pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors on va se tourner vers la croix de Jésus Et puis vous allez vous mettre derrière votre chaise. Voilà, on va faire ensemble un beau signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles, ouvre nos intelligences et ouvre nos cœurs à ta parole. On va demander à Marie aussi de nous accompagner pendant cette séance de caté, parce que c'est elle qui nous apprend à regarder son fils et à comprendre les choses de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, il y en a qui sont tombés dans le piège. Dans notre Père, vous rappelez qu'il y a une nouvelle phrase à dire. Hein, c'est plus « ne nous laisse pas entrer en tentation » maintenant. Voilà, vous pouvez vous rasseoir et vous allez ouvrir vos livres, page 36-37. Alors, à la fin du film, comment ça se termine ? Oui.
C'est David qui bat Goliath.
Et est-ce que vous savez, du coup, quelles sont les conséquences de cette victoire de David sur Goliath ? Mathéo ?
Il va être roi.
Voilà. Et roi de quoi ? Mado ? Roi d'Israël. C'est ce que tu voulais dire, Léon, aussi ? Voilà. Alors, vous connaissez un petit peu Israël, on en a déjà parlé. Tout à l'heure, tu as parlé de Joseph, Stanislas. Hein ? Tu as parlé de Joseph. Et Joseph, il avait combien de frères ? Théo ? Il avait 11 frères. Donc, avec Joseph, en tout, ça faisait 12... Ouais, Carla ? 12 frères, et qui sont devenus des... Ouais ?
Chrétiens.
Ah, des chrétiens, pas tout de suite.
Des Hébreux,
le peuple hébreu, c'est devenu les 12 tribus d'Israël. Israël, c'était le nouveau nom que Dieu avait donné à Jacob, le père de Joseph. Vous vous rappelez tout ça ? Voilà, les 12 tribus d'Israël. Et donc les 12 tribus d'Israël, vous vous rappelez, ils étaient revenus s'installer en Égypte, ils avaient prospéré. Bon, il leur arrivait plein de choses. Et sauf que les 12 tribus, elles avaient fini peut-être par se séparer un peu. Et elles avaient besoin de se retrouver, de se regrouper. Et le peuple d'Israël a demandé un roi à Dieu. Il voulait un roi pour Israël, pour son peuple. Et donc, c'est comme ça que Dieu a choisi David. Donc, la phrase que vous avez, que Félix, tu as dit tout à l'heure, c'est « Dieu ne juge pas selon les apparences, mais il regarde notre cœur ». Voilà. Est-ce que c'est mieux de regarder le cœur ? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase-là ? Oui, Anna.
C'est mieux de regarder notre cœur.
C'est mieux de regarder notre cœur.
Parce qu'il y a des gens, ils peuvent être pas très beaux et ils peuvent être pas très beaux, mais ils sont très gentils.
Ouais. Alors, oui.
Il y en a, ils sont riches et ils sont méchants. Il y en a, ils sont pauvres et ils sont gentils.
Ouais. Exactement. Et nous, on voit les apparences parce que quelquefois, on n'arrive pas à voir dans le cœur des gens. Parce que le cœur des gens, voilà. Si on demande l'Esprit Saint. Si on demande à Dieu de nous aider, peut-être qu'on peut arriver à changer notre regard sur les gens. Et au lieu de les voir tels que les hommes les voient, avec les apparences, quelqu'un de riche, quelqu'un de beau, quelqu'un de pas beau, on peut commencer à voir avec le regard de Dieu. Et le regard de Dieu, c'est un regard d'amour et c'est un regard qui nous connaît. Voilà. Alors, David, effectivement, a été roi pour Israël et ça a été un très grand roi. Vous savez à quel âge il est devenu roi ? Parce qu'en fait, il a fallu attendre quand même la mort du roi Saül. Hein ? Il a fallu, enfin, qui était peut-être pas roi, merci. aussi. Donc il a fallu attendre la mort de Saül pour qu'il devienne roi. Il est devenu roi encore plus tôt que Emmanuel Macron, président de la République. Il avait 30 ans. Voilà. À 30 ans, il est devenu roi et il a régné pendant 40 ans sur Israël. Donc ça a été un grand, grand roi pour Israël et il a permis de refaire un peu l'unité autour du peuple hébreu. Et il a même donné une capitale à Israël, au pays. Et alors, est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle la capitale qui a été choisie par David ?
Jérusalem.
Jérusalem, voilà. Alors, Jérusalem, qu'est-ce que ça vous inspire, Jérusalem ? Qu'est-ce qui s'est passé après à Jérusalem ? Oui ?
C'est là où Jésus est né.
Alors, c'est pas où, il est né tout près. Il est né dans quel village ?
Bethléem.
À Bethléem, en Judée, d'accord ? Et surtout, après, à la fin de sa vie, il est mort où ça ?
À Jérusalem.
Donc vous voyez, tout ça, on est dans l'histoire qu'on est en train de raconter de l'Ancien Testament. Tout ça, ça préparait la venue de Jésus. Et ça a mis 4000 ans à arriver. Et donc, voilà, David est devenu roi. Mais alors David, il était super, il avait des grandes qualités, mais il a quand même aussi fait des bêtises. Alors, dans ses qualités, est-ce que vous connaissez peut-être les qualités de David ? Félix.
C'est qu'il a confiance en Dieu.
Il a confiance en Dieu, oui.
Il est très gentil.
Il est gentil. On va voir que... Oui.
Il avait un cœur pur,
mais il n'a pas gardé toujours pur. Il a fait des bêtises aussi, il a fait même des grosses bêtises. Alors d'abord, c'était un berger, il est devenu un guerrier. Le roi David, il a quand même été assez conquérant et il y a eu beaucoup de guerres. Mais il combattait au nom de Dieu. Ça, c'est bizarre. Hein. C'est quelque chose... Pour les chrétiens, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Le peuple de Dieu, il met du temps à être éduqué. On met du temps à comprendre. On est très, très lent à comprendre. Donc, David a été roi. Et il avait un talent. C'est qu'il était musicien. Tu savais, Théa ? Oui ?
Pour endormir les moutons.
Ah ben, sûrement. Il avait appris pour endormir ses moutons. Oui ?
Il faisait du harpon.
Alors, c'est de la harpe, plutôt, tu veux dire ? Oui, Louane. En fait, c'était de la sitar. Hein. C'était une espèce d'instrument de musique avec des cordes. Oui.
S'il y avait un conseiller qui voulait qu'il vienne parce qu'il était triste, que Dieu l'ait abandonné.
Ah oui, alors c'est vrai qu'avec Saül, il y a eu des histoires compliquées aussi. Parce que Saül, le fait que Dieu lui dise « Maintenant, tu m'as déplu et je vais mettre quelqu'un d'autre à ta place », ça ne lui a pas tellement plu. Hein. Donc quand David est devenu roi, Saül il a été jaloux. Et même à un moment, il a voulu le tuer. Heureusement, David était très ami avec le fils de Saül, qui s'appelait Jonathan, qui l'a prévenu que le roi Saül voulait le tuer. Voilà. Mais David avait un grand cœur, comme tu as dit, et au lieu de se venger, un jour il a eu l'occasion de tuer Saül. Parce que Saül s'était endormi dans une grotte. Et justement, il se trouve que David s'était réfugié là avec des personnes armées. Donc il aurait pu, dans son sommeil, le tuer et prendre sa place. Mais David n'a pas souhaité faire ça. Il a dit, Saül a été choisi par Dieu comme roi. Et donc moi, je ne veux pas le tuer. Et donc quand Saül s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il aurait pu se faire tuer par David et que David l'avait épargné. Et là, Saül a reconnu que David serait un bon roi pour Israël. Donc David a continué sa vie, il a fait des grosses bêtises, notamment il est tombé amoureux de quelqu'un et il a eu la mauvaise idée, pour la récupérer pour lui, d'aller faire tuer son mari. Cette jeune femme, elle s'appelait Bethsabée et elle avait un mari qui était un soldat du roi David. Et David l'a envoyé au combat en première ligne en espérant bien qu'il allait se faire tuer et c'est ça qui s'est passé. Le mari de Bethsabée est mort et le roi David a récupéré Bethsabée pour lui. Et c'était un grand péché qu'il a fait. Au début, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait un grand péché. Et puis un jour, il a compris. C'est quelqu'un qui lui a montré que ce qu'il avait fait, c'était très très grave. Et donc, à ce moment-là, comme il était poète, il a composé des très très belles chansons, des très très, très belles prières. Pour demander pardon au Seigneur. Voilà. Et ces prières qui sont chantées avec la sitar, est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ? C'est une partie qu'on trouve dans la Bible. Les psaumes, ça vous dit quelque chose, les psaumes ? Oui, Félix ?
À la messe, on chante des psaumes entre les...
Entre les lectures, ouais. Entre la première et la deuxième lecture, il y a toujours, on chante les psaumes. Et il y a une grande partie des psaumes qui a sans doute été écrite par le roi David. Donc vous voyez, bah, le roi David, il n'a pas été parfait, mais en tout cas, il a su demander pardon. Voilà, et ça c'est très important pour vous aussi. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de demander pardon dans votre vie? Oui, Mathéo. Oui. Félix?
Moi, je suis déjà allée me confesser.
Ah oui, on peut aller se confesser aussi pour demander pardon. Et comment on se sent une fois qu'on a demandé pardon à quelqu'un?
Mieux.
Ah, on se sent mieux, oui. Et voyez, le Seigneur est miséricordieux, il est toujours prêt à nous pardonner. Et c'est vrai qu'on se sent mieux envers Dieu quand on a demandé pardon, mais on se sent mieux aussi vis-à-vis des autres. Quand on a fait quelque chose de mal, on est très embêté. Voilà. Alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Vous reconnaissez ce livre? Oui. Comment il s'appelle, Jeanne?
La Bible.
La Bible. Alors, c'est la suite du roi David. Il a eu un fils, enfin, il a eu deux fils. Le premier qui est mort rapidement, et puis un deuxième qui s'est appelé Salomon. Alors, je vais juste vous lire le texte. Salomon, un roi sage et puissant. Salomon, le fils de David, est lui aussi un grand roi, car Dieu le rend très sage pour gouverner son peuple. C'est Salomon qui fait construire pour le Seigneur le magnifique temple de Jérusalem. Mais la mort de Salomon marque la fin de l'unité du royaume. Le rêve de Salomon. Salomon est le fils du roi David et de Bethsabée. Après la mort de son père, Salomon devient roi à son tour. Il se marie avec la fille du roi d'Égypte, le Pharaon, et il s'installe à Jérusalem. Un jour, Salomon se rend dans la ville de Gabaon pour y offrir un magnifique sacrifice à Dieu. Pendant la nuit, le Seigneur lui apparaît dans un rêve et lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je promets de te le donner. » Salomon répond « Seigneur, tu as toujours montré beaucoup d'amour envers mon père David. Tu as voulu que moi, son fils, je lui succède. Mais je suis très jeune, je n'ai pas d'expérience et je ne sais pas gouverner. Et ton peuple est devenu très nombreux, si nombreux qu'on ne peut plus le compter. » Voilà ce que Salomon demande. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Alors, qu'est-ce qui a compris le texte? Qui peut le reformuler? Vas-y.
Salomon a parlé à Dieu.
Salomon a parlé à Dieu, ouais. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Enfin, d'abord, c'est Dieu qui a parlé.
Oui, Dieu a demandé si Salomon voulait quelque chose.
Ouais.
Et Salomon a répondu d'être intelligent et sage pour réussir à gouverner son peuple.
Ouais. Anna?
Parce que le peuple de Dieu, Jérusalem, il s'était agrandi.
Ouais, le peuple de Dieu, c'est Israël. Hein, Jérusalem, c'est la ville. Mais il s'est agrandi, donc c'est difficile de gouverner, c'est difficile d'être roi. Et alors vous, si quelqu'un, un petit génie, un bon génie, venait vous voir et vous demandait de faire un vœu, qu'est-ce que vous demanderiez en premier?
D'avoir des vœux à l'infini.
D'avoir des
vœux à l'infini.
Des vœux à l'infini, ah, astucieuse.
Avoir la paix dans le monde.
Avoir la paix dans le monde.
Plus de guerre.
Plus de guerre. Pauline.
De pouvoir voler un jour.
Pouvoir voler. Mado.
La paix.
La paix. Mathéo.
Qu'il n'y ait plus de péché.
Et si on demandait pour vous, pas pour les autres, mais pour vous, une chose pour vous, Carla?
D'avoir tout l'amour de Dieu toute ma vie.
D'avoir tout l'amour de Dieu toute ma vie. Oui.
D'avoir un cœur attentif, sage et pur pour toute ma vie.
Tu ferais la même demande que Salomon, c'est ça? Ça t'a plu et ça a plu à Dieu, t'as raison. Une fois que quelqu'un nous a montré un bon exemple, bah, faut pas hésiter à le recopier. Oui. Mathéo?
Avoir un cœur pur.
Avoir un cœur pur.
Ne jamais faire de péché.
Ne jamais faire de péché. Bah, je crois que toutes ces demandes, elles plairaient aussi à Dieu. Oui.
Voir Dieu.
Voir Dieu.
D'avoir un cœur pur et d'être intelligent.
Oui. Qui doit Phoebe? J'ai pas entendu ce que tu demanderais à Dieu, toi. Tu sais pas? Faudrait que tu réfléchisses un peu. Florian?
Un cœur pur.
Un cœur pur. D'accord. Mais lui, comme il avait... Oui?
Jamais faire de péché.
Jamais faire de péché. Ouais. Ça, c'est difficile, hein. Ce qui est plus important, c'est de savoir qu'on peut être pardonné. Que si jamais on fait un péché, on peut demander pardon. De toujours avoir le courage de demander pardon. Oui?
Un cœur pur.
Un cœur pur. Alors Salomon, lui, il devait être roi, et ben il a demandé, il aurait pu demander normalement un homme, un roi, quand on est président, quand on gouverne, souvent on demande plutôt la puissance, la richesse, pouvoir être le chef, le roi du monde, le dominateur du monde, pouvoir faire ce qu'on veut du monde. Mais justement, quand Dieu a choisi David, il a choisi un berger, c'est justement qu'il voulait montrer quoi ?
Qu'il y a des gens qui sont pas très très intéressants, mais qui ont souvent des bons cœurs purs.
Ouais.
Et que tout le monde peut être roi.
Ouais. Mais pourquoi un berger, ça fait quoi un berger toute la journée?
Ça s'occupe des moutons.
Ça s'occupe des moutons. Et ça s'occupe des moutons pour comment? De quelle manière?
Ça les nourrit, exactement. Ça les dresse.
Ça les nourrit, ça les dresse. Quoi d'autre?
Il les surveille.
Il les surveille.
Ça les protège.
Ça les protège.
Il les emmène dans différentes prairies pour qu'ils soient
mangés. Ah, ouais. Bah, justement, dans les psaumes, il y a un beau psaume où justement on dit que le Seigneur nous apporte dans les bons pâturages pour nous donner à manger.
Il est gentil avec eux.
Il les apprend à marcher.
Et voilà, il leur apprend à marcher. Et bah tout ça... Finalement, Dieu, ce qu'il nous a donné comme modèle pour les gouvernants du monde, eh ben, c'est le berger. Nous, on est les petits moutons. Et puis ceux qui gouvernent, ils ne sont pas là juste pour avoir un troupeau à eux. Ils sont là pour se mettre au service du troupeau, pour se mettre au service des petits moutons, pour leur donner à manger, pour leur donner à boire, pour leur chanter des chansons pour les endormir, comme tu disais tout à l'heure.
Pour être affectueux.
Pour être affectueux, voilà, pour qu'ils soient heureux. Mais c'est ça le modèle pour Dieu d'un bon gouvernant, d'un bon roi. Voilà. Bon, alors Salomon, il avait des très bonnes idées. Et notamment, dans les très bonnes idées, il a réalisé un rêve qui était un rêve de son père de créer un grand temple à Jérusalem. Alors, c'est quoi un temple? Oui.
Ouais,
c'est un endroit où on va pour prier. Et donc, il voulait créer... un endroit particulièrement beau, comme on n'avait presque jamais vu de bâtiment aussi beau, pour y mettre... vous rappelez d'Abraham et de Moïse?
Oui.
Vous rappelez de leur histoire? Et vous rappelez de ce qu'avait reçu Moïse sur la montagne? Oui.
Les 10 commandements.
Les 10 commandements. Et ça avait été gravé sur quoi, les 10 commandements?
De la pierre.
Sur de la pierre. Et la pierre, eh ben, c'est dit que cette table des 10 commandements, elle était transportée précieusement dans l'Arche d'Alliance. Et donc Salomon a eu l'idée de construire un temple pour mettre justement les commandements de Dieu à l'intérieur. Alors je vais vous lire le texte. Oui.
J'ai vu le film Les 10 commandements.
Tu l'as vu? Et alors?
C'était très bien. C'était bien.
Un temple magnifique. Salomon a un projet extraordinaire. Il veut faire construire à Jérusalem un temple magnifique pour le Seigneur. Quel chantier gigantesque! Les ouvriers les plus habiles se mettent au travail. Salomon demande à son ami Hiram, le roi de Tyr, de lui fournir des bois très précieux comme le cèdre et le cyprès. Pour les murs, on va tailler des pierres dans les meilleures carrières. Rien n'est trop beau pour Dieu. Au cœur du temple, il y a le Saint des Saints, la pièce qui doit abriter l'Arche d'Alliance. Tout l'intérieur est recouvert d'or fin. La maison de Dieu est achevée au bout de 7 ans. Le peuple d'Israël peut maintenant admirer une œuvre grandiose, d'une splendeur sans pareille. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce texte ? À quoi ça sert d'avoir un endroit pour prier ?
Bah, à prier.
Pour prier, justement.
Pour penser à Dieu.
Pour penser à Dieu.
Pour parler à Dieu.
Ouais, on peut parler à Dieu ?
Oui.
Comment on fait ?
On prie.
On prie. Et qu'est-ce qu'il y avait des idées pour parler à Dieu ?
Un temple, ça sert aussi pour dire pardon à Dieu.
Oui.
Pour ouvrir notre cœur.
Oui.
Il faut parler à croire en Dieu.
Il faut croire en Dieu. C'est un endroit où on peut se... Oui, Mathieu.
Pour dire nos péchés.
Mmh. Héloïse.
Pour prier pour Dieu, on fait la croix et on dit des choses.
Oui. Et vous voyez, Jésus, quand il était à Jérusalem, un jour, il est rentré dans ce temple. C'était quand même très longtemps après, parce que ce temple, il lui arrivait plein d'histoires. Il a été démoli plusieurs fois, puis reconstruit plusieurs fois. Et aujourd'hui, on ne voit plus que ce qu'on appelle le mur des lamentations. Vous l'avez déjà vu à la télé, le mur des lamentations ? Tu l'as vu, Théa, toi ? Ça ressemble à quoi ? C'est un grand mur où il y a des petits trous dedans et il y a des gens qui viennent mettre des petites prières dedans, ou des grandes prières d'ailleurs. Et donc, un jour, Jésus s'est retrouvé dans ce temple et qu'est-ce qu'il a vu ? C'est la fois où il s'est mis en colère. Quelqu'un la connaît, cette histoire-là, Jésus qui s'est mis en colère ? Et ben, il est arrivé dans le temple et puis il s'est rendu compte qu'au lieu que ce soit une maison de prière, un lieu où on priait, et ben, les gens... Oui, Charlotte ?
Il y avait des gens qui vendaient, qui faisaient comme si c'était un marché.
Alors parle plus fort parce que je suis pas sûre qu'au fond on t'entende. Vas-y, redis ce que tu as dit.
Bah, il y avait des gens qui faisaient comme si c'était un marché dans le temple. Du coup, Jésus, il n'était pas content.
Et ouais, et pourquoi c'était un marché ? Ça leur permettait de faire quoi, le marché ?
De vendre.
De vendre et ?
De gagner
de l'argent. En fait, ils utilisaient finalement la religion... pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Donc ils vendaient des animaux qui allaient être sacrifiés au temple, mais ce n'était pas du tout par amour de Dieu. Et alors Jésus est rentré dans la plus grande colère de sa vie, mais je pense que c'était une colère qui devait être douce quand même. Mais en tout cas, il était décidé, il était très fâché. Il a renversé tous les bancs des marchands. Et il a chassé les marchands du temple. Il leur a dit « Partez d'ici ». Vous avez fait, quelqu'un la connaît cette phrase ? Vous avez fait de la maison de mon père
un temple des brigands.
Un repère pour les brigands, ouais. Un repère pour les voleurs. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Le temple, c'est là pour Dieu, c'est pas là pour les hommes. Et quand les hommes utilisent la religion, non pas pour Dieu, mais pour leur propre profit personnel, on court tout droit à la catastrophe. Parce que c'est exactement le contraire que doit faire la religion. La religion, elle doit nous tourner vers Dieu. Elle doit faire qu'on devienne meilleur si on utilise la religion pour notre profit personnel. Vous rappelez vous allez prendre dans votre livre la chanson sur le ciel d'Abraham ? Vous avez les paroles ? Si certains n'ont pas les paroles, parce qu'il y a la moitié de la classe, peut-être que d'habitude je ne vois pas, j'ai quelques exemplaires à distribuer. Donc il faudrait qu'il y ait un distributeur qui viennent, voilà. Alors normalement, il y a la moitié de la classe qui va connaître la chanson et l'autre qui va la découvrir petit à petit et qui pourrait vous mettre à chanter au fur et à mesure. C'est bon, vous êtes prêts à chanter ? Vous en souvenez ? Vous vous rappelez de cette chanson ? Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles, enfants de la promesse. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu. Le premier des croyants a quitté son pays quand Dieu l'a rappelle un peu tout ce qu'on a vu là depuis le début de l'année. Hein, on a fait un peu toute l'histoire des prophètes. Vous vous rappelez de quel prophète on avait parlé ?
Abraham.
Ensuite, Samuel. Alors Samuel, on a parlé ?
Jacob.
Oui. Isaac.
Moïse.
Joseph.
David.
Benjamin. Benjamin, alors c'était pas des prophètes, mais c'était, on a un petit peu mélangé, mais bon, voilà, il y a des, oui.
Salomon
est un roi, donc c'est bon, il y a des rois, des prophètes, ça se mélange. Il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui donnent des conseils, oui. Joseph.
Saül.
Alors Saül, c'est un prophète. C'était un roi. Ouais. Qui? Moïse. Ça te dit, oui.
Goliath.
Oui, alors là, Goliath, c'est un peu différent. Goliath, c'était un philistin, c'était plutôt... voilà, c'est un ennemi d'Israël. Voilà, donc le peuple d'Israël, vous voyez, on a raconté toute cette histoire-là. Et le peuple d'Israël, c'est les descendants d'Abraham. On a chanté aussi les étoiles dans le ciel d'Abraham, parce que vous vous rappelez de la promesse que Dieu avait faite à Abraham.
La descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable.
Ouais. Héloïse ?
Et aussi nombreuse qu'il y a des grains de sable à la plage.
Voilà, et que nul ne pourrait le compter. Déjà, au moment de Salomon, on ne pouvait plus le compter. Alors, vous imaginez aujourd'hui. Donc, le peuple d'Israël, Dieu en a pris soin. Et il est venu, il a parlé à plusieurs personnes pour transmettre des choses. Et puis, à chaque fois, les rois, ils sont choisis par Dieu, on dit, ils reçoivent l'onction, ils sont bénis, puis ils se trompent, ils font des erreurs, et puis les hommes, ils continuent à se battre. Et donc, il y a eu un prophète, Isaïe, qui va annoncer un autre roi pour Israël, un Messie. On en a parlé aussi du Messie, qui est arrivé longtemps après, 1000 ans après Salomon.
Jésus.
Voilà. Jésus, c'était le roi annoncé pour Israël, comme David a été le roi annoncé pour Israël, le suivant, c'était Jésus. Et donc lui aussi, Dieu a choisi quelqu'un, peut-être on ne s'y attendait pas. Pourquoi on ne s'y attendait pas que ce soit Jésus, le Messie d'Israël ? Vous vous rappelez comment il est né ?
Il est né dans une étable.
Il est né dans une étable, et est-ce que c'était une place ? Oui.
C'est Dieu qui est allé voir Marie pour lui dire qu'il allait avoir un enfant, et c'était une étable.
Ça allait être le roi. Et là, vous voyez que Jésus, justement, il est comme David, il a pris modèle sur le berger. Et donc Jésus, c'est le bon berger du peuple d'Israël. Et il s'occupe de nous comme ses petits moutons. Quand on se perd, il dit, si on a 100 brebis, qu'il y en a une qui se perd, et il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui manque. Jésus, c'est le bon berger. Voilà, c'est celui qui va jamais utiliser son pouvoir pour lui-même, mais qui va toujours se donner à nous, qui va toujours s'occuper de nous. Alors, vous allez peut-être prendre vos cahiers un petit peu, et puis vous avez peut-être des coloriages un petit peu à avancer. Voilà, donc vous pouvez prendre vos crayons et faire un joli cahier de catéchisme, parce qu'on va un petit peu finir le premier cycle, justement, de l'Ancien Testament.
C'était une séance de catéchisme avec les élèves de l'école Fénelon à Toulon. Vous êtes bien sur Radio Maria. Jésus, toi, nous, la...